nous a rendus participants de cette victoire.
Amen.
Ô Seigneur, comment te dire notre reconnaissance? Nous t'aimons, nous t'adorons. C'est à cause de ta croix et de tes souffrances que nous avons une telle victoire, une telle joie, un tel pardon, une telle assurance. C'est parce que tu as tout accompli que nous pouvons maintenant nous réjouir en toi et bénir ton saint nom qui est béni éternellement. Seigneur, bénis encore la méditation de ta parole. Mets ton onction sainte sur chaque parole qui sera dite. Mets ton onction sur nos oreilles aussi, afin que nous puissions bien écouter ta voix, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais de ceux qui écoutent et mettent en pratique, afin que tu sois glorifié et que nos vies soient heureuses avec toi et bénies. Seigneur, tu connais nos besoins. Veuille inspirer selon les besoins de chacun. Merci encore pour ton grand amour, bon berger des brebis. Merci de nous remplir de ta grâce, de ta paix, de ta sagesse, pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Sommes encore dans la sainte présence du Seigneur. Je suis persuadé qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire parce qu'il nous aime tant. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à leur même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Combien cette parole est glorieuse. Son amour est si grand, si merveilleux. Pour chacun d'entre nous, ce soir encore, il veut nous aider.
Amen.
Il veut nous relever.
Amen.
Il veut nous fortifier. Il veut nous purifier.
Wow.
Il veut nous faire du bien. Il est merveilleux. Ce soir, j'aimerais vous donner quelques paroles encore très importantes pour tout chrétien. Cet après-midi, nous avons vu ce qu'est un véritable chrétien. Et maintenant, nous allons voir quelques vérités importantes pour tout chrétien. Les cinq règles d'une vie chrétienne bénie. Cinq règles d'une vie chrétienne bénie. La vie chrétienne n'est pas, comme je l'ai dit cet après-midi, une loterie. Tout dépend de notre disposition d'esprit et de notre obéissance au Seigneur. Amen.
Amen.
Si nous sommes souples entre ses mains, si nous sommes bien disposés, il peut faire beaucoup. Ne dis pas « je ne suis rien ». Ne dis pas, certains parlent mieux que moi, d'autres sont plus éduqués que moi. Moi, je ne suis rien, un pauvre homme, pauvre fille, pauvre dame, je ne sais pas grand-chose. Ne dis jamais cela. Dieu peut utiliser quiconque au milieu de nous.
Amen.
Quand Dieu mesure quelqu'un, il ne met pas la mesure autour de sa tête, mais il met la mesure autour de son cœur.
Amen.
Amen.
Et ce soir, le Seigneur veut nous aider chacun d'entre nous. Mais il y a des règles pour cela. Parfois, en voyant l'un qui est béni plus que l'autre, on se pose des questions, on dit, alors où j'en suis, et moi, Seigneur ? Et on est comme jaloux, ou alors on méprise ce que Dieu nous a donné, on jalouse ce que Dieu a donné à l'autre, et ainsi on n'en finit pas. et nous restons stériles alors que Dieu a un plan précis pour chacun d'entre nous. N'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre. Sois toi-même.
Amen.
Car Dieu a un plan précis pour toi.
Amen.
Si tu cherches à devenir quelqu'un d'autre, tu entraves le plan de Dieu dans ta vie.
Amen. Alléluia.
Amen.
Plus tôt tu deviens toi-même, et plus tôt tu mets en pratique et que tu ne méprises pas ce que Dieu t'a donné, plus tôt le Seigneur t'utilisera et tu seras pleinement heureux. 5 règles d'une vie chrétienne bénie. Et ces 5 règles, pour bien nous en rappeler, nous allons les trouver en utilisant un verbe avec ses dérivés. Ce verbe, nous le trouvons dans la parole de Dieu, ce verbe est « donner ». Avec ce verbe « donner » et ses dérivés, nous allons découvrir 5 règles d'une vie chrétienne bénie. Ces 5 verbes-là ont une grande importance dans la parole de Dieu. Et nous devons aussi y donner nous-mêmes une grande importance. Alors je vais vous donner ces 5 verbes qui gravitent autour du verbe « donner ». Et nous allons lire ensuite quelques textes. Le premier verbe, la première règle, c'est abandonner. Abandonner sa vie passée au Seigneur. Abandonner. Ensuite, être pardonné. Quand nous abandonnons notre vie passée, alors nous sommes prêts à être pardonnés, à être libérés. Une fois que nous sommes pardonnés, nous devons pardonner. Abandonner, être pardonné, pardonner. 4e verbe, se donner. Et le 5e, donner. Ces 5 verbes-là, si nous y prenons bien attention, sont 5 règles qui peuvent complètement bouleverser votre vie chrétienne. Amen.
Amen.
Et tous ici, nous pouvons le faire. Il n'y a aucune exception. Si nous sommes bien disposés, le Seigneur veut nous donner une vie chrétienne bénie. Bénie, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi une vie bénie pour les autres. Amen.
Amen.
La vraie vie chrétienne bénie n'est pas celle qui est bénie soi-même, mais c'est celle qui est en bénédiction aux autres. Être béni pour être en bénédiction.
Amen.
L'Éternel n'a-t-il pas dit à Abraham, « Je te bénirai et je te rendrai en bénédiction. » Voilà la vraie bénédiction. Il y a trop de chrétiens que je pourrais appeler les béni-moi. Les chrétiens béni-moi, vous les connaissez ceux-là ? Et madame, c'est monsieur béni-moi, et madame béni-moise, je ne sais pas comment ça fait, béni-moise. Mais c'est toujours quand ils ouvrent la bouche, Seigneur béni-moi, béni-moi, béni-moi. Continuellement obsédés par la bénédiction qu'ils veulent pour eux-mêmes. Dieu les bénit, mais on a l'impression que cette bénédiction tombe dans un sac percé. Il n'y a rien qui tient. Et on a l'impression que plus ils sont bénis, moins ils sont contents, parce qu'ils deviennent égoïstes. Écoutez-moi bien, quand vous bénissez un égoïste, vous le rendez insatisfait. Vous le rendez intransigeant, parce que plus il en a, plus il en veut, et moins il est content. Alors la vraie bénédiction, c'est être béni, c'est vrai, mais pour être en bénédiction aux autres. Amen. Il faut bien penser à cela, mes amis. Beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Si tu veux que ta vie soit une bénédiction devant Dieu, il faut que tu dises, Seigneur, ça suffit, je suis assez béni déjà. Je veux maintenant être une bénédiction aux autres.
Amen.
Amen. Alors voyons ces 5 verbes. Et vous savez, les verbes expriment toujours une action. C'est quand nous mettons ces verbes en action dans nos vies que quelque chose se passera. Si vous sortez en disant « c'était des belles paroles », il n'y a rien qui changera. Nous devons convertir nos désirs en décisions. Combien de chrétiens disent « je désire que le Seigneur me bénisse, je désire être une bénédiction aux autres ». Ce n'est pas suffisant. Oh, si vous saviez comme je désire, c'est passé. Ça ne suffit pas. Tu dois convertir tes désirs en décisions. Quand tu commences à dire « Seigneur, maintenant je décide d'être une bénédiction, me voici, je le décide, coûte que coûte », alors quelque chose va se passer. Mais si vous restez dans les désirs, « je désire bien, je le souhaite, oh oui Seigneur, tu le... » on peut même verser des larmes et faire du surplace. Il y en a beaucoup qui versent des larmes et qui font du surplace. Et il y en a qui ne font pas grand-chose. Mais qui sont décidés. C'est ceux-là qui vont de l'avant. Et c'est ceux-là que Dieu utilisera. Premier verbe, abandonner. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Ce verbe, nous le trouvons ici. Première épître, chapitre 1er. L'église de Thessalonique était une église modèle. On dit qu'en 3 semaines, il y a eu un travail extraordinaire dans les Actes des Apôtres. On voit combien Paul a travaillé là. Et très courtement, cette église de Thessalonique a été une grande bénédiction. En peu de temps, on entendait parler d'eux partout. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un tel succès ? En peu de temps, en 3 semaines. Nous, il nous faut 30 ans pour débloquer. Encore, on ne débloque pas encore. Là, en 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une règle. Nous allons découvrir cela. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 1, verset 2 déjà. On va lire jusqu'au verset 10. C'est très important. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu, notre Père, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en, qu'est-ce que vous avez ici ? Abandonnant. Quoi ? Les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors voyez ici au verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Voilà pourquoi l'église de Thessalonique était une église qui a été puissamment utilisée par le Seigneur. Vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, il y en a qui se convertissent en n'abandonnant rien du tout. Et ils se disent convertis. Il y a encore des idoles à la maison. Il y a encore des choses qui déshonorent Dieu à la maison. Et on se dit converti. Et ce n'est pas étonnant que pendant des mois et des années, on ne progresse pas spirituellement. La première clé, la première règle pour une vie chrétienne bénie, mes amis, celle-là, nous n'aimons pas toujours l'entendre. Celle-là, nous n'aimons pas tellement. Mais c'est l'abandon, abandonner ses idoles, sa vie passée. C'est ce que la Bible dit et parle de la repentance, cette coupure définitive avec notre vie passée. Pour croire ensuite au Seigneur Jésus et lui donner notre vie. Mais nous ne pouvons pas vraiment nous abandonner à lui si nous n'avons pas abandonné nos idoles. Quelles sont vos idoles, mes idoles? Qu'est-ce qu'une idole? C'est ce qui t'est le plus cher. C'est ce à quoi tu étais attaché avant de te convertir et qui avait la première place dans ta vie. Et lorsque tu te convertis au Seigneur, ce qui était le plus cher, tu dois l'abandonner. Parce que vous savez, on est prêt à abandonner beaucoup de choses. Des choses qui nous ne dérangent pas beaucoup. Ah, oh, vous savez, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ça. Ah oui, ouais, c'est bien. Mais il y a une petite chambre à la maison, on ne la montre jamais aux visiteurs. C'est la petite chambre où il y a sa petite idole. Propre, au propre et au figuré. Et celle-là, on ne veut pas la montrer. Mais on a abandonné beaucoup de choses. Mais on n'a pas abandonné l'essentiel. C'est là que nous devons tous bien veiller. Mes amis, pour bien démarrer la vie chrétienne, il faut couper définitivement avec son passé, avec tout ce qui déshonorait Dieu dans notre vie. Amen. Là, c'était des idoles. L'autre, c'est peut-être un péché, je ne sais pas, l'adultère, le mensonge, l'impureté. Enfin, toutes ces choses qui étaient là, qui étaient notre passion avant. Tout cela doit être abandonné radicalement. Amen. Amen. Les prières ne servent pas pour nous délivrer de ces choses. C'est la repentance qui nous délivre totalement. Alléluia. Amen. Alors bien sûr, nous n'aimons pas entendre parler de cela. Et c'est pourquoi nous piétinons. C'est pourquoi nous n'en sortons pas. Et vous le savez vous-même, ce qui peut vous arrêter. On peut tromper un prédicateur. On peut tromper d'autres chrétiens. Mais vous, vous le savez dans votre cœur. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas abandonné et qui déshonore Dieu, c'est là un point important. Seigneur, je me convertis à toi en abandonnant tout ce qui te déshonore dans ma vie. Alléluia. L'avez-vous fait? C'est le premier point. Savez-vous qu'il y en a après 10 ans, 20 ans encore de conversion, il lutte avec certains problèmes. Mes amis, tu n'as pas à lutter avec certains problèmes ou certaines passions. Il y en a pour régler le problème, ils essayent de chasser les démons. C'est pas comme cela que vous réglez un problème. On règle un problème en se repentant de ce péché. Amen. Au plus profond de soi-même. Amen. C'est quand on se repent sérieusement, profondément, définitivement. Par exemple, si tu es adultère ou autre, Seigneur, délivre-moi de cet esprit d'adultère. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur, à partir de maintenant, c'est terminé. Amen. Là où le péché est confessé, là où on abandonne le péché, le diable n'a plus de pouvoir. Amen. Le diable a un pouvoir quand le péché n'est pas encore confessé ni abandonné. Alors le diable se moque. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est toujours des montants, on monte, on descend. Les chrétiens en dents de scie. Les chrétiens en dents de scie. Ça existe. Et vous savez, un chrétien en dents de scie, c'est dangereux quand vous vous trouvez près de la scie, elle, ça coupe. Et quand vous vous trouvez près de certains chrétiens, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a pénétré en vous. Quand vous êtes en contact avec certains chrétiens, toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours quelque chose qui ne va pas. Et bien souvent, naturellement, on met toujours la faute sur les autres. C'est jamais de sa faute. Jamais. Mais le problème... Et là, abandonné, as-tu fait cet abandon de tes idoles, de ton péché, de ton passé, de tout ce qui déshonorait Dieu, de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? L'as-tu fait? L'as-tu fait? sincèrement. Vous savez, un jour, j'avais lu le témoignage, enfin l'histoire, de deux hommes qui avaient bu, ils avaient bu presque toute la nuit, et le lendemain, ils devaient partir dans leur village. Mais pour aller dans leur village, ils devaient traverser une rivière, une assez longue rivière, et pour cela, ils devaient prendre un bateau, un petit bateau, une petite barque. Alors, comme ils avaient bu un petit peu, ils sont arrivés au bord de l'eau. Alors, bon, allez, on y va. Le bateau, la petite barque était là. Alors, ils montent dans cette petite barque. Ils s'installent. Voilà, l'autre se met là et il commence à ramer. Il commence à ramer. C'était déjà le matin, vers le matin, comme ça. Alors, au bout d'une heure, ils se sont dit, au bout d'une heure, en principe, on mettait une heure pour venir. Donc, on doit mettre une heure pour repartir. Alors, au bout d'une heure, ça devrait aller. Et au bout d'une heure, il commençait à faire jour aussi. Alors, ils ont dit, regarde un peu, regardons un peu où on est. On doit certainement arriver, regarde la maison, elle est pas loin, certainement. Alors, ils ont ramé, ils sont fatigués, ils ont ramé. Ils ont dit, ah, maintenant, on est sûrement arrivé. À peu près une heure, c'est ça. Le jour était là, ils regardent un petit peu avec l'heure. Ils étaient encore. Ils regardent. Regarde derrière. Ah ! On est toujours au même endroit ! On a oublié d'enlever la mare ! Il y avait la corde là, on a oublié d'enlever ! Et on a ramé, on a fait du surplace ! On s'est fatigué, on a ramé ! Ils n'ont pas bougé ! Tout ça à cause d'une corde ? Et ils n'ont pas enlevé l'amarre, et ils se sont bien fatigués. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se fatiguent, qui rament, mais qui font du surplace. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas enlevé l'amarre. Il y a une corde qui est là, qu'on ne veut pas abandonner, mais qu'on garde dans le secret de son cœur. Mes amis, je sais que ça, c'est pas des choses agréables à entendre, mais... Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Mes amis, si nous voulons vraiment commencer une vraie vie chrétienne, alors il faut que la coupure avec le passé soit définitive et totale. Amen. Pas à moitié, oui, un petit peu. Ah oui, la corde, je vais la couper un peu à moitié, pas complètement. Elle est si belle cette corde, elle est si belle. Oh non, j'ose pas. Voilà, on fait du sentiment, on s'en sort pas. Oh, et puis elle est sous l'eau, on la voit pas. Oh, elle est là, elle est sous l'eau, là. Et puis ça reste dans l'eau, puis ça se durcit encore plus. Il n'y a rien qui change. Première règle pour une vie chrétienne bénie. Ils se sont convertis en abandonnant les idoles. Amen. Si nous voulons suivre le Seigneur, il faut... couper avec notre passé de péché, de rébellion, d'idolâtrie, d'impureté. Mais vous allez me dire, mais ça c'est l'ABC. Oui, c'est l'ABC. C'est l'ABC. Mais combien ne veulent pas passer par là? Ou s'ils y vont, c'est un peu à moitié, à 50%, 70%, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. On veut mieux y croire au Seigneur. Mais Jésus a dit dans son message, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais ça, on n'ose pas. Non. On dit, croyez à la bonne nouvelle, croyez. On prêche la moitié du salut. Et c'est pourquoi les chrétiens sont à moitié morts. Ou à moitié vivants. Vous voulez? Ils sont à moitié quelque chose. C'est pas étonnant parce qu'on perd. Si on prêche la moitié du salut, si on prêche que ce qui plaît, est-ce qu'on aide les gens? On ne les aide pas. Abandonnons. Les idoles, ils se sont convertis en abandonnant. Voyez-vous, la vraie conversion est liée à l'abandon total de ces idoles du passé, de tout ce qui déshonorait Dieu dans notre vie. Amen. Voilà une vraie conversion. Réelle, authentique. Et on n'a pas à vous forcer, il y en a combien? Alors, est-ce que tu veux faire quelque chose? On est là toujours en train de forcer certains. Allez, s'il te plaît, allez, abandonne, tu verras, abandonne, allez. Et puis ça y est, on fait ça pour faire plaisir. Dès qu'on tourne le dos, Alors, hop, ça recommence. Ah, j'ai cru que c'était fini. Mais elle a fait ça pourquoi? Pour te faire plaisir. Mais le cœur n'y était pas. Abandonnant les idoles. Ça, voilà comment ça commence. Seigneur, me voici. Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.
Toutes choses. Alléluia. C'est merveilleux. Ce verset est merveilleux. Amen. Abandonnant les idoles. As-tu passé par là? Ça, c'est la repentance. Si on peut donner un autre mot à ce mot, c'est la repentance. C'est la vraie repentance. Gloire à Dieu. Alors, une fois que nous avons fait ce pas, nous pouvons obtenir le deuxième point. Abandonner, être pardonné. Proverbe 28, 13, être pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comment être pardonné? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si nous cachons ce qui doit être confessé et abandonné, nous ne prospérerons point. Tant que nous jouons à cache-cache avec Dieu, nous n'en sortirons pas, mes amis. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens font du surplace. Vous avez l'impression, quand ils prient de tout leur cœur, ils versent des larmes et tout, mais ils font du surplace. Vous les revoyez 10 ans après, c'est la même chose. Il n'y a rien de changé. Ils veulent être bénis, mais ils ne veulent pas obéir. N'est-ce pas tragique, cela? Ce n'est pas cela, un vrai chrétien. Si tu veux devenir un chrétien, si je veux devenir un vrai chrétien, si je suis devenu un vrai chrétien, c'est pour vivre une vie totalement nouvelle. Amen. Mais non pas essayer de vivre ces deux vies, une vie avec le monde et une vie avec le Seigneur, on sera malheureux. Si tu as un pied dans le monde, tu seras malheureux dans le monde. Et si tu as un pied avec le Seigneur, tu seras malheureux avec le Seigneur. Nous devons faire un choix. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui était à l'école du dimanche. Et la maîtresse de... Enfin, l'institutrice, enfin, la monitrice de l'école du dimanche posait la question aux enfants, à qui voulez-vous ressembler? Vous savez, avec l'histoire du mauvais riche et de Lazare, là. Du mauvais riche et de Lazare. Du pauvre Lazare et le mauvais riche. Alors, à qui voulez-vous ressembler? Au mauvais riche ou au pauvre Lazare? Alors, les enfants ont réfléchi un petit peu. Moi, je peux répondre? Oui, allez, dis-moi. Qu'est-ce que... Il me dit, voilà. Mademoiselle, moi, j'y réfléchis. Eh bien, sur cette terre, je veux être comme le mauvais riche. Mais quand, pour aller au ciel, je veux être comme le pauvre Lazare. Il voulait être les deux. Et il était malin dans son raisonnement. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui raisonnent comme cela. Ils veulent profiter des deux. Et en voulant profiter des deux, ils ne profitent de rien du tout. Ils perdent tout. En voulant tout gagner, tu vas tout perdre. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pas de prospérité, pas de joie, pas d'épanouissement. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et lorsque nous sommes pardonnés, alors à ce moment-là, nous sommes véritablement libres. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voyez, là encore, c'est la confession plus l'abandon, pas seulement la confession. Et il y en a beaucoup qui sont spécialistes pour confesser leurs péchés, mais ils font toujours bien attention de ne jamais l'abandonner. Avez-vous remarqué cela?
Mon Seigneur, pardonne. Seigneur, oui, c'est mal, Seigneur, c'est vrai.
Ils confessent, ils pleurent. Ils ont fini leur prière, ils s'en vont, ils n'abandonnent rien du tout. Ils sont champions pour confesser, mais ils ne sont pas champions pour abandonner. Et quand est-ce qu'il y a le pardon et la libération? Lorsqu'on confesse et qu'on a
abandonne. Amen. Alléluia. Dieu a fait les choses toutes simples. C'est nous qui compliquons. C'est nous qui sommes tordus. Et alors on est là, on prie, on jeûne, on fait tout un tas de choses. Et nous tournons en rond parce que nous ne sommes pas droits, intègres au fond de nous-mêmes. Nous ne voulons pas vraiment changer. Et nous voulons changer Dieu. Nous voulons que Dieu intervienne par nos larmes, nos prières, notre argent ou je ne sais quoi. Mais mes amis, vous perdez votre temps à vouloir changer Dieu. C'est nous qui devons changer. Lui ne changera jamais. Amen. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il ne change jamais. C'est notre sûreté.
Amen.
Et c'est notre libération. Abandonner, être pardonné. Lorsque j'abandonne, alors à ce moment-là, je suis pardonné. Je suis délivré. Et maintenant, nous arrivons au troisième point. Troisième règle. Pardonner. Les références, Matthieu 6, 14, vous connaissez ce passage, on va juste le lire en passant. Matthieu 6, 14, 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et Marc 11, 25, Marc 11, 25. Voici ce qu'il est dit. Il y en a beaucoup qui aiment le verset 24 de Marc 11, 24. Vous savez, là, quand il est dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup qui aiment ce verset? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il s'arrête là. Il ne faut pas plus loin. Ça ne les intéresse pas plus loin. Ce n'est pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, mais on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après qui nous dérange? Là, c'est qu'on aveugle, on ne voit plus rien après. Ça ne nous intéresse pas, on ne voit plus, on ne voit plus. C'est... Après, on saute, on voilà. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors ça, on n'aime pas. Ça, ça nous dérange. Et cependant, c'est une clé importante pour l'exaucement de nos prières. Amen. Nous cherchons tout un tas de raisons pour voir pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Mais la principale raison est là. Amen. C'est là, là, lorsque tu es debout faisant ta prière, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Et ton Père Céleste pardonnera. Ne garde rien dans ton cœur contre qui que ce soit. Et si l'autre a mal fait, Dieu s'occupera de cette personne. Amen. Cela ne veut pas dire que ce que l'autre a fait n'est rien du tout, pas du tout. Si l'autre a mal agi, Dieu s'en occupera. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dois le laisser entre les mains du Seigneur. Mais quant à toi, tu dois pardonner, purifier ton cœur de toute amertume. Et c'est là ce qui empoisonne beaucoup de vies chrétiennes. L'amertume, le ressentiment, la haine même pour certains. C'est terrible. Et bien souvent, ces problèmes commencent dans la maison. Vous savez, quand on vit avec les siens, là, ça devient dur. Quand on se connaît un peu trop, n'est-ce pas vrai? Alors, au début, on observe les qualités, mais après, on observe les défauts. Et ça, c'est terrible. Et si nous ne faisons pas attention, celui ou celle que nous avons aimé le plus, c'est celui ou celle que nous détestons le plus après. Quelle tragédie! Amen! Quelle tragédie! L'être que vous avez le plus aimé, c'est celui ou celle que vous détestez le plus après. Quelle tragédie! Quel empoisonnement! On est complètement défiguré. Et le ressentiment défigure quelqu'un. Le non-pardon vous fait beaucoup plus de mal à vous-même que le mal que l'autre vous a fait. Souvent, nous ne voulons pas pardonner, c'est pour un peu nous venger. Tu m'as fait du mal ? Moi, maintenant, en faisant la tête et tout ça, maintenant, je vais remuer le couteau dans la plaie. Et tu vas voir ce que c'est. Tu m'as fait du mal ? Je vais te montrer maintenant que tu as tort de le faire. Et on ne se rend pas compte quand il y a une telle attitude, on se fait plus de mal nous-mêmes que le mal qu'on nous a fait. Amen. À Dieu la vengeance, mes amis. À Dieu la rétribution. Mais ton rôle à toi, c'est de pardonner, de purifier ton cœur continuellement. Fais-le, fais-le. C'est tellement important. Et plus tu veux marcher avec le Seigneur, plus tu seras rempli du Saint-Esprit, plus tu devras pardonner aux autres. Là encore, ça c'est une autre chose. Plus tu es béni, plus tu rencontreras de l'opposition. Il y en a qui veulent être bénis, mais attention, tu sais ce que tu demandes. Peux-tu supporter la bénédiction? Il y en a qui ne supportent pas la bénédiction. Dites comment? C'est bizarre ça. Moi j'en veux, je veux la bénédiction. Et vous dites qu'on ne peut pas supporter la bénédiction. Mais moi je veux... attention, tu ne sais pas tellement... tu sais pas ce que tu demandes. Parce que plus tu es béni, plus on sera jaloux de toi. Et si tu ne sais pas comment te comporter lorsqu'on te jalouse, comment tu vas faire? C'est comme ça que tu réagis, toi? Ta bénédiction va commencer à disparaître petit à petit. Tu ne sais pas garder ce que Dieu t'a donné parce que tu n'as pas cet esprit de pardon dans ton cœur. Tu veux être béni? Alors sache une chose, Dieu te bénira, mais on te contredira, on s'opposera à toi, on te calomniera. Arrête, moi je veux être béni, c'est tout. Moi je veux pas qu'on me calomnie. C'est comme ça, ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot. Si tu abandonnes le Seigneur a dit, on te donnera des maisons, tout ça, avec des tribulations. Ça on les veut pas. On dit Seigneur, j'abandonne tout et tu me donnes un peu toutes ces choses-là. Alléluia! Mais le dernier passage du verset, avez-vous remarqué? Il y en a qui ça les intéresse pas. Avec des tribulations. Non. C'est une mauvaise traduction, ça. C'est sûrement avec des bénédictions, c'est pas avec des tribulations. C'est une mauvaise version, ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, il y a la bénédiction, mais avec la bénédiction, il y a les tribulations. Parce qu'on s'opposera à toi. D'autres n'aimeront pas la bénédiction que tu as. Es-tu prêt à supporter cela? Qu'est-ce que tu me dis là? Pourtant, c'est la bénédiction. Ah oui, c'est vrai, c'est la bénédiction. Mais tout le monde ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Et si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas pardonner, tu perdras tout. Et cela, c'est pour chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, tout le monde. J'ai décidé dans mon cœur de pardonner. Amen. Jusqu'à la fin. Vous devez prendre des décisions, mes amis. Si tu veux que Dieu te bénisse et t'utilise, tu dois prendre cette décision. Sinon, quand la tribulation, la calomnie, l'opposition viendra, tu vas dire, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas gentil de leur part. Non, Seigneur, tu m'abandonnes. Non, c'est pas possible, je n'ai pas le coup. Il commence à faire sa crise. Et on tombe dans une dépression, on n'en sort plus pendant des années. Pendant des années, certains n'en sortent plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à purifier son cœur. Mes amis, je sais que ça, ce sont des choses difficiles à mettre en pratique. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Humainement, nous ne pouvons pas. Mais Dieu permet ces choses pour que nous crions à lui, pour nous briser, pour nous sonder, et pour qu'on crie à lui, et qu'on garde notre cœur pur, purifié de toutes ces choses qui détruisent la vie de tant d'enfants de Dieu. Pardonne. Le Seigneur s'occupera de toi. Pardonne comme tu as été pardonné. Et ne reviens pas là-dessus, ne reviens plus. Pardonne définitivement. Alléluia. Le Seigneur s'occupera de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi.
mais il ne peut être avec toi si tu gardes l'amertume en toi. Il n'est pas là pour te dire toujours tu as raison. Il est là pour te consoler, te purifier. Et c'est lui qui s'occupera du reste. Il fera concourir toutes choses pour ton bien.
Amen.
Amen. Pardonner. Mes amis, c'est très important. C'est une règle pour une vie chrétienne bénie. Le non-pardon détruit toute bénédiction. Fais-le. Fais-le. Purifie ton cœur. Je sais que c'est parfois en criant au Seigneur qu'on doit le faire. Mais tu ne dois pas écouter tes sentiments dans ce domaine-là. Tu dois prendre des décisions. Le pardon est une décision de la volonté. Amen.
Amen.
Avez-vous remarqué quand le Seigneur nous dit qu'on doit pardonner? Est-ce qu'il nous dit, quand tu sentiras le pardon, tu pardonneras? Est-ce que c'est écrit ça? Alors il y a même des chrétiens qui disent, mais moi je ne pardonne pas parce que je sens rien, je ne veux pas être un hypocrite. Vous voyez le raisonnement qu'on a? On est justement hypocrite et on dit qu'on ne veut pas être hypocrite. Mais le Seigneur dit de pardonner. Si le Seigneur te dit de pardonner, c'est que tu peux pardonner avec son secours.
Amen.
Amen. Le Seigneur ne donne jamais des ordres impossibles à réaliser. N'est-ce pas vrai? S'il te dit quelque chose, tu peux. Avec son aide et son secours, tu peux le faire. Fais-le par la foi. En obéissance à la parole. Non pas parce que tu ressens quelque chose. Dites-moi un peu, si on devait pardonner seulement quand on ressent l'esprit de pardon, combien de fois on pardonnerait? Pardonnerait jamais. Jamais. Chaque fois que vous avez pardonné, c'était quand vous aviez des sentiments de pardon et d'amour dans votre cœur? Non, non. C'était le contraire. C'était le contraire. C'était la bagarre. C'est lutte entre nous. Et Dieu permet ça pour que nous le fassions par la foi. Comme une obéissance au Seigneur.
Amen.
Et c'est l'obéissance qui déclenche la bénédiction. Donc n'attends pas des bons sentiments, tu peux attendre longtemps. N'attends pas que l'autre change aussi, pardonne, purifie ton cœur. Et le Seigneur s'occupera. Prie pour l'autre, pour que Dieu l'éclaire. Mais toi, purifie ton cœur. Pardonne.
Amen.
Garde rien, ne garde rien. Et maintenant, tu as pardonné. Il y a la quatrième règle, se donner. Maintenant, tu es prêt à te donner. Alléluia. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 1 Jean 3,16, c'est quoi? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Jean 3,16, c'est Dieu qui donne sa vie. Par son Fils, qui donne, le Fils qui donne sa vie. Et 1 Jean 3,16, c'est nous qui avons cru au Seigneur, nous devons maintenant donner notre vie pour nos frères. Amen.
Amen.
Vous savez qu'on peut donner aux autres sans se donner soi-même. On peut servir les autres sans avoir un esprit de serviteur, savez-vous cela? On peut donner sans se donner. Il y a un autre beau passage que j'ai noté ici. 2 Corinthiens 8,5. Un très beau passage. Vous savez, c'est les églises de Macédoine où il est dit, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, au début il est dit, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, voyez-vous, des tribulations et une joie débordante. C'est merveilleux. Mais comment cela? Pourquoi une joie débordante dans la tribulation? Eh bien, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous vous rendez compte? C'est les chrétiens qui supplient l'apôtre, Dieu, non, je t'en prie, laisse-nous, nous voulons aider, nous voulons faire quelque chose. Quelle disposition d'esprit! Quelle générosité! Mais pourquoi cela?
parce qu'il y a le secret est là. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Mes amis, c'est quand nous nous donnons d'abord nous-mêmes que tout le reste se fera beaucoup plus facilement dans notre vie. Toutes nos restrictions, tous nos combats proviennent de quoi ? De ce que nous ne sommes pas donnés nous-mêmes. Amen. Alors, avec l'abandon, c'est l'abandon du passé. Mais il ne faut pas... Ça, c'est, si on en reste là-dessus, c'est négatif. Donc, on abandonne quelque chose. Mais le Seigneur veut plus maintenant. Il veut qu'on se donne à lui. 100%. Il se donne au Seigneur. Vous savez, vous connaissez ce passage. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme soi-même ? Seulement dans la mesure où on aime le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Amen. Quand on se donne entièrement au Seigneur, le Seigneur se donne entièrement à nous. Et nous pouvons ensuite faire ce qu'il nous demande. Alléluia ! Se donner. Est-ce que tu t'es donné entièrement ? 100%, c'est toi qui le sais. Ah mais moi, je me suis donné 90%. Ça ne suffit pas? Si tu dis à ta femme, écoute chérie, je t'aime à 99,99%. Je pense que tu dois être satisfaite avec ça. Hein? Est-ce que votre épouse sera satisfaite? Comment? Qu'est-ce que c'est que ces calculs? Mais c'est 99,99. Mais c'est merveilleux. Comment merveilleux? C'est pas merveilleux du tout. Mais c'est 99,99. Non, c'est ce petit 0,01% que je veux. C'est ce que tu retiens qui m'attriste. Comment? Mais le reste, suffisant. Non. Autrement dit, l'épouse, qu'est-ce qu'elle veut? Ou c'est tout, ou c'est rien, c'est pas vrai?
Amen.
Ou c'est tout, ou c'est rien, oui ou non?
Amen.
L'épouse ne peut pas être satisfaite à moins. J'ai jamais rencontré une épouse qui est satisfaite. Moi, d'accord, ça va, tu peux m'aimer à 40%, 30%, 20%, ça va. Vous croyez que ça marche, ça? J'ai jamais entendu ça. L'amour se conjugue toujours en totalité, en plénitude. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ta pensée. Vous voyez, c'est de la plénitude, c'est tout. C'est tout ou rien du tout. C'est ça l'amour, c'est le langage de l'amour, ça. Mais maintenant, nous, on est devenus sages. Ouais, je t'aime, mais... Faut pas être fanatique, faut pas exagérer, tout. Voilà, on s'en sort plus. Et on a toutes les raisons pour se justifier que c'est tragique. Quand on aime vraiment quelqu'un, on se donne 100% à cette personne. Amen. Et c'est là la clé du succès, la clé de la bénédiction. Mon ami, Dieu ne regarde pas à ton cerveau, à ta tête, ou à la grosseur de ton porte-monnaie. Dieu regarde à la grosseur de ton cœur. Est-ce que tu es entièrement à lui? Est-ce que tu peux dire que j'ai livré entièrement ma vie au Seigneur? 100%! Et pour être plus sûr, tu peux faire 120%. Tu fais 120% comme ça, t'es sûr. Parce qu'il y en a, c'est toujours 100%, mais ça descend toujours après. 99, après 98. Mais 120! Comme ça, t'es tranquille. Ça peut descendre à 118, 117. Mais c'est toujours au-dessus de 100. Alléluia! On n'aimera jamais trop le Seigneur. Amen.
Amen.
Et au ciel, on regrettera une chose, c'est de ne pas l'avoir assez aimé. C'est Hudson Taylor qui disait, si j'avais 100 000 vies, je les donnerais au Seigneur. Je recommencerais 100 000 vies. Nous n'avons qu'une vie, mes amis. Et notre vie doit glorifier le Seigneur. Vous ne pourrez pas vous racheter là-haut, c'est terminé. Vous ne pourrez pas vous racheter là-haut. C'est fini. C'est maintenant que vous devez prouver votre amour pour le Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous n'avez qu'une vie. Elle passe vite. Elle passe très vite. Je vois les années qui passent. Les cheveux blanchissent. On perd les cheveux aussi. Le temps passe. Le temps passe si vite. Oh, faut-il... Il y avait un beau cantique. Faut-il que je me présente devant le Seigneur les mains vides? Je ne me souviens plus de ce beau cantique. Faut-il que je me présente devant le Maître les mains vides? Vas-tu te présenter les mains vides? Tu ne te présenteras pas les mains vides si tu te donnes 100% au Maître. 100% fais-le. Dis-lui, me voici. Je me donne à toi. Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur ou un missionnaire qui pense que parce qu'ils ne sont pas appelés au ministère qu'ils ne peuvent rien faire. Quelle erreur! Pour prier pour l'apôtre Paul, le Seigneur a utilisé qui? Un disciple nommé Ananias. Un disciple. Un simple disciple qui était disponible pour prier pour le grand apôtre. C'est la disponibilité qui compte, mes amis.
Amen. Amen.
La disponibilité. Si nous aimons quelqu'un, nous nous rendons disponibles. Tu peux faire des erreurs, mais si tu les fais parce que tu aimes le Seigneur ne t'en tiendra pas rigueur. Il t'aidera à mieux aimer, mais il ne t'en tiendra pas rigueur. Si c'est des erreurs parce que tu l'aimes beaucoup, il t'enseignera, il t'aidera, mais il ne te rejettera jamais. Se donner, mes amis, avez-vous fait ce pas? Avez-vous un jour capitulé devant le Seigneur? J'ai dû le faire un jour. Après ma conversion, c'était merveilleux, mais après j'ai commencé à reprendre ma propre vie. Pendant quelques mois, et j'étais malheureux, malheureux. Tout était bloqué d'un seul coup. Tout était bloqué, il n'y avait plus aucune ouverture, rien, partout. Toutes les portes étaient fermées. Et je disais, Seigneur, pourquoi? Mais je ne l'ai pas dit trop fort parce que je le savais. Souvent on dit, Seigneur, pourquoi? Mais il ne faut pas aller trop fort parce qu'on le sait. On essaye de discuter. Et j'ai dit, Seigneur, je le sais. Je sais pourquoi. Tout est fermé, tout est bloqué. J'ai repris ma vie. Oh, je n'avais pas tout repris. Mais j'avais repris un petit peu, je le savais. J'ai dit, Seigneur, maintenant c'est fini. Me voici. À toi. Pour toujours. Prends ma vie. Je ne suis pas grand-chose. Je ne sais rien. Je ne suis rien. Mais si tu peux faire quelque chose de moi, fais-le. Il a entendu la prière. Il est merveilleux, le Maître. Merveilleux, mes amis. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse afin que toute la gloire lui en revienne.
Amen.
Amen. Ne l'oublions jamais. Donne-toi. Et pour terminer, donner. Jésus lui-même a dit, acte 19, 35, il y a plus de bonheur ou de joie à donner qu'à recevoir. Il y en a qui ont une mauvaise version, vous savez quelle version ils ont? Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est toujours comme ça qu'ils voient. C'est leur version à eux. Il y a plus de bonheur à recevoir. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y a pas de bonheur à recevoir, mais il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment ça? Moi, je connais plutôt le bonheur de recevoir, mais je ne connais pas le bonheur, le plus grand bonheur de donner. Eh bien, comment est-ce qu'on l'apprend? Eh bien, en donnant. Écoutez-moi bien. Il y en a qui donnent en vue de recevoir. Ça, c'est le mauvais chemin. C'est l'égoïsme. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu, tu dois recevoir pour donner. Et non pas donner pour recevoir. Qu'est-ce qu'on entend? Dans beaucoup de littérature, n'avez-vous pas remarqué? Donnez et vous recevrez. Donnez, donnez, donnez. Mais c'est toujours dans le but de recevoir, voyez? Il faut favoriser l'égoïsme. Donne et tu recevras. Donc, autrement dit, la personne donne par intérêt, c'est pas par amour. Je donne pour recevoir, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est l'intérêt, c'est les calculs. Ça, c'est le commerçant qui calcule comme ça. Je te donne, Seigneur, mais à condition que ça vienne. Hein. Si ça ne rentre pas, pas question. Pas question, pas question. Surtout pas. Tu ne peux pas m'avoir, Seigneur, moi. Moi, tu peux pas m'avoir.
Ah bon?
Comment tu donnes? Par intérêt ou par amour? Je te donne si je reçois. Où tu as vu ça? Je donne parce que j'aime, Seigneur. Même si je ne sois rien, le vrai don, c'est donner gratuitement. Amen. Sans rien attendre en retour. Amen. Et le don qui nous coûte le plus cher, c'est celui que l'on donne gratuitement. Donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu as compris que si tu veux recevoir uniquement dans le but de donner, tu recevras encore, encore, encore et encore. Voilà pourquoi Dieu peut bénir certaines personnes, certains chrétiens. Parce qu'il sait que lorsque ces chrétiens reçoivent, ils sont toujours prêts à donner, à donner, à donner. Mais il y en a d'autres qui donnent pour recevoir. Dieu voit le fond du cœur, le manque de droiture, l'esprit tordu, intéressé, et Dieu cessera de bénir une telle personne. Parce que c'est favoriser l'égoïsme, l'intérêt personnel. Donnez, et il te sera donné. Donnez, et il vous sera donné. Mais il n'est pas dit donner dans le but de recevoir. C'est comme si Dieu disait donne, et moi je te donnerai. Reçois pour donner, et tu auras toujours quelque chose à donner. Alléluia! Et on versera dans son sein une mesure serrée, secouée, qui déborde. Quand parfois Dieu nous secoue un petit peu, c'est pour que ça déborde un peu plus. Quand Dieu nous secoue un petit peu, il a en vue le débordement. Laissez-le faire.
Amen.
Mais ne vivez pas. Ne donnez pas pour recevoir. Recevez pour donner. La bénédiction ne vous quittera pas, mes amis. Sinon, vos bénédictions ne dureront pas. Vous serez toujours en train de quémander, de rouspéter, de réclamer, de murmurer. Vous avez reçu, donnez maintenant. Et plus vous donnez, plus vous recevrez. Et plus vous recevez, plus vous donnerez. Voilà les règles d'une vie chrétienne bénie. C'est tout simple ce que je vous ai dit là. Mettons en pratique la parole. Et ne nous séduisons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Le Seigneur a fait les choses toutes simples. Amen. Toutes simples. Soyons droits devant le Seigneur. Soyons décidés. Soyons entiers. Soyons déterminés à faire sa volonté. Et vous verrez que le Seigneur fera au-delà de ce que vous pensez et demandez. Et à lui seul, soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen.